Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 232e émission d'À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et l'astronautique, chaque troisième dimanche du mois, de 13h à 14h. N'oublions pas que cette émission a une marraine, qui est Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Le 19 juin dernier, l'astrophysicien Roger Maurice Bonnet s'est éteint à l'âge de 88 ans. Nous devions initialement lui rendre hommage en mars, mais le calendrier en a décidé autrement, le lancement d'Artemis 2 étant repoussé, l'émission prévue en février sur ce thème est reportée. C'est donc aujourd'hui que nous lui consacrons cette édition spéciale. Né le 23 décembre 1937 à Dourdan, Roger Maurice Bonnet était astrophysicien spécialiste du Soleil et l'un des grands architectes de la science spatiale européenne. De 1983 à 2001, il dirige le programme scientifique de l'Agence spatiale européenne en structurant une stratégie à long terme et en portant des missions majeures qui ont fait entrer l'Europe dans la cour des grands. Et cet hommage résonne particulièrement pour moi parce que Roger Maurice Bonnet a été, d'une certaine façon, l'un de mes tout premiers grands invités. En 1996, j'ai poussé les portes de Radio Droite Cité au Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie, pour animer bénévolement des émissions musicales. Deux ans plus tard, en 1998, le président de cette radio associative, voyant ma passion pour l'astronomie, me donne carte blanche pour une émission sur l'espace. À l'époque, je voulais créer une sorte de déclinaison radiophonique de la Nuit des Étoiles lancée en 1991. Un moment de partage, de science et de rêve. J'ai appelé cette émission « Voyage à travers les étoiles » et elle durait 3 heures en direct. Quand j'ai commencé à chercher des invités, on m'a conseillé un nom impressionnant, Roger Maurice Bonnet, alors directeur scientifique à l'Agence spatiale européenne. Honnêtement, je m'attendais à un refus. Venir de Paris un samedi soir pour parler d'espace sur une radio locale dont la zone de couverture ne dépassait pas une trentaine de kilomètres autour de Mantes, ça me semblait peu probable. Et pourtant, il a dit oui. Pour moi, c'était immense. Un invité prestigieux et surtout un homme accessible, passionné et profondément tourné vers les autres. Ce soir-là, il a même laissé un mot de la fin qui m'avait marqué. Un message qui dépassait largement l'astronomie. Un appel à la compréhension, au dialogue, à la paix. Je vous propose d'en écouter un extrait enregistré lors de cette émission de 1998.
Bon, moi d'abord, je voudrais dire à quel point je suis impressionné que vous ayez, vous, Monsieur Franck Menant, conduit cette émission pendant 3 heures, aussi bien que vous l'avez fait. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont eu à la fois le courage, la patience ou l'intérêt de nous écouter, de l'avoir fait. Je suis venu ici parce que j'avais un intérêt particulier à venir dans un endroit qui a une réputation sensible, comme on dit. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux regarder les étoiles que de s'adonner à des activités violentes, qu'elles soient entre les amis ou les non-amis dans les régions dites sensibles. Et j'avoue que votre initiative ici est tout à fait encourageante. Je crois qu'il est essentiel que des initiatives comme celle-ci soient conduites. L'astronomie, c'est une science où on peut recréer des cellules amicales, que ce soit dans les planétariums, que ce soit autour d'une lunette dans une nuit étoilée, que ce soit à visiter un centre spatial. Vous avez pas loin d'ici des muraux. Je pense qu'on peut aller les visiter facilement, voir comment on fait les fusées Ariane. Moi, je serais prêt à accueillir plusieurs d'entre vous en Hollande, dans notre centre technique, où vous verriez des satellites d'être testés, en voie de test. Tout cela, c'est à mon avis tout à fait important pour vous rendre compte à tous que cette activité-là, même si elle peut paraître un peu superflu, en fait des propriétés tout à fait intéressantes, pacifiques, et qui peuvent rehausser la nature humaine. Et donc je vous invite tous effectivement non seulement au Club Copernic, mais à regarder le ciel et à y voir beaucoup plus que des étoiles. Un message d'interrogation permanente.
Voilà, c'est ce message-là que j'avais envie de remettre en lumière aujourd'hui. On y reconnaît parfaitement Roger Maurice Bonnet, sa bienveillance, sa simplicité et cette façon de rappeler que la science peut aussi servir de passerelle entre les gens. Pour cette émission hommage, j'ai souhaité donner la parole à celles et ceux qui l'ont connu, côtoyé et apprécié. On commence avec Pierre Drossard, chercheur en planétologie à l'Observatoire de Paris. Pierre Drossard, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre participation à cette émission hommage. Quand vous avez appris la disparition de Roger Maurice Bonnet, qu'est-ce qui vous est venu en premier ? Une image ? Une phrase ? Un souvenir ?
Roger Maurice Bonnet est pour tous les scientifiques qui ont été impliqués dans le spatial depuis les années 80 et même avant, c'était un peu une icône, c'était un peu un des pères fondateurs, on va dire, de la recherche spatiale, puisqu'il a été quand même très longtemps à l'Agence spatiale européenne, de 1983 à 2001. Comme directeur du programme scientifique, et on peut dire que c'est lui qui a vraiment engagé la recherche scientifique et l'exploration planétaire à l'Agence spatiale européenne. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, c'est la disparition d'un des pères fondateurs, je dirais.
Et dans quel contexte vos chemins se sont croisés et quel rôle jouait-il à ce moment-là ?
Alors, je ne l'ai pas connu directement, enfin assez peu, je l'ai rencontré assez régulièrement dans des colloques et en particulier dans les colloques de prospective du CNES qu'il a suivi très souvent à différents titres. Donc je l'ai connu d'abord par mes directeurs de mes laboratoires successifs et donc, comme moi-même, j'ai beaucoup travaillé dans le spatial, j'ai été amené à non pas le côtoyer de manière proche, mais en tout cas à discuter avec lui assez régulièrement sur les missions spatiales sur lesquelles nous étions impliqués dans des cadres professionnels.
Dans les grandes décisions scientifiques, il était plutôt vision ou détail ou les deux ?
Alors d'abord, bon, c'est un grand scientifique. Il a fait une carrière scientifique reconnue, tout à fait remarquable. Il a dirigé un laboratoire, le laboratoire de physique stellaire et planétaire à Verrières-le-Buisson, qui était l'ancêtre de l'Institut d'astronomie spatiale d'Orsay d'aujourd'hui. Mais aussi, et là c'est dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, il a su d'une part s'entourer de collègues brillants et éminents, et réellement, au niveau politique, il a réussi à mettre sur pied tout un programme scientifique d'exploration planétaire à l'Agence spatiale européenne, qui au départ, dans le début des années 80, quand il est arrivé, n'était pas tourné vers l'exploration. Il y avait des missions scientifiques, bien sûr, mais pas tant d'exploration. Et il a vraiment impulsé par son charisme et par sa vision aussi scientifique, un programme dont on continue encore aujourd'hui à suivre les suites. Je citerai par exemple la mission, le programme Horizon 2000 qu'il a mis sur pied dans les années 90, eh bien, la mission Bepi Colombo, qui est encore aujourd'hui en pleine activité, puisque c'est la mission vers Mercure qui est en train de donner ses premiers résultats et qui a encore plusieurs années devant elle, eh bien, elle a été dans ce cadre-là, dans ce programme. Donc, c'est vrai du spatial en général, les missions sont sur une telle durée qu'elles durent des décennies, Eh bien, lui a eu cette vision sur, sur mettre sur pied un programme qui n'existait pas avant lui. Et la première mission sur laquelle j'avais d'ailleurs été, même à l'époque, impliqué par mon laboratoire, c'était la mission de l'observation de la comète de Halley, Giotto, la mission de l'ESA. Et il a dû batailler pour imposer l'idée que l'Europe pouvait, à elle toute seule, sans être derrière le grand frère de la NASA, être capable de monter toute une mission. Et ça, il fallait vraiment beaucoup d'énergie à l'époque, hein, pour arriver à ces résultats-là. Donc encore aujourd'hui, on peut dire que nous sommes les héritiers, hein, de Roger Bonnet, Maurice Bonnet dans le spatial d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire, Pierre Drossard, que sans lui, il y aurait des projets qui n'auraient peut-être jamais vu le jour?
Effectivement, quand une personne disparaît, c'est intéressant de se poser la question, quel rôle clé a-t-il eu et que serait-il passé sans lui? C'est évidemment une question un peu délicate, on ne peut pas y répondre réellement, mais c'est certain que ça n'aurait pas eu le même développement, ou peut-être plus tard, ou en tout cas pas de cette façon-là. Mais ça, c'est une question qui est évidemment un peu difficile. Toujours est-il que il était clairement reconnu comme un guide, je dirais, dans tous les projets qu'il a pu lancer.
C'était quoi, Pierre Drossard, qui le distinguait uniquement? Son style, son exigence ou sa manière de convaincre?
Une rigueur très claire. C'était un scientifique, comme je disais, de grande valeur. Et donc, il avait à la fois une vision de scientifique, mais aussi, sur tous les aspects techniques, il était capable d'avoir, et c'est essentiel dans le spatial, à la fois la vision de ce qui est possible de réaliser. Parce que des scientifiques peuvent avoir des utopies, mais qui sont malheureusement pas faciles à réaliser. Il avait le sens du réel. Et aussi, si on s'en tient que à ce qu'on sait faire et au réel, y compris dans le spatial, eh bien, justement, on n'avance pas parce qu'on fait ce qu'on sait déjà faire. Et donc, il avait à la fois la capacité d'imaginer l'étape d'après, ce qu'il faut faire après pour réellement faire avancer la science. Et ça, peu de scientifiques l'ont eu dans leur domaine, et lui, donc, dans le domaine spatial, a été à la fois un grand scientifique, mais aussi évidemment un grand politique, parce qu'à l'Agence spatiale européenne, il faut négocier, il y a des réunions ministérielles, il faut défendre des budgets, convaincre les politiques que l'exploration planétaire, c'est pas uniquement de l'argent dilapidé pour le plaisir des scientifiques, mais que ça apporte quelque chose pour la connaissance, mais aussi pour l'avancement des techniques, et que pour l'Europe, ça fait un rayonnement. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, en convaincant à la fois les politiques, les scientifiques, et bien entendu l'organisme lui-même de l'ESA, qui lui doit beaucoup. Ce que je peux rajouter, c'est que il avait également, que beaucoup de grands scientifiques ont, hein, une grande largeur, une grande connaissance, pas seulement de son propre domaine, qui au départ était plutôt la physique solaire, mais également des domaines de toutes sortes. Et c'est ça, là, un des intérêts aussi de l'exploration planétaire pour laquelle il a tant contribué, c'est qu'on a un peu tous les domaines de la physique se retrouvent dans une mission spatiale, et il était capable, grâce à l'étendue de ses connaissances, d'avoir, hein, la bonne compréhension de tout ce qu'on lui proposait.
Compréhension, et puis il était compréhensible aussi, puisque au même titre que Hubert Reeve, il était régulièrement invité dans des émissions télévisées pour parler de l'astronomie.
C'est exact, hein, peut-être qu'il a été moins médiatisé, hein, qu'Hubert Reeves, mais il est clair que ses conférences étaient toutes d'une clarté, j'en ai entendu plusieurs, étaient réellement très didactiques. On reconnaissait sa force de persuasion. son côté politique aussi, mais tout en restant très humain et très accessible.
Pierre Drossard, en pensant à lui, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui veulent travailler dans l'espace ou l'astronomie?
C'est une question effectivement tout à fait importante. Aujourd'hui, on ne travaille plus de la même façon qu'il y a maintenant pas loin de 50 ans, hein, quand l'ESA était encore, pour son programme scientifique du moins, une agence en devenir. Aujourd'hui, il y a énormément de projets. On peut dire que la façon de travailler est sans doute peut-être plus rigide que pouvait l'être au début et beaucoup plus calibré. Mais ce qui est important pour un jeune qui démarrerait dans ce domaine, donc à la fois pas seulement comme scientifique théoricien, mais vers l'exploration et l'instrumentation spatiale, c'est de savoir garder l'objectif scientifique derrière le monceau de problèmes techniques qu'on va rencontrer pour le réaliser. C'est pas toujours facile parce que quand, bon, mettons, et vous en avez régulièrement, hein, vous aurez une idée, vous dites, ah, je voudrais faire ça. Et, bon, il va falloir démontrer que c'est mieux de le faire dans l'espace que par d'autres moyens, parce que c'est évidemment la condition sine qua non pour convaincre une agence de vous faire un satellite. Il faut avoir donc à la fois une combinaison de réalisme et d'utopie. Et ça, c'est compliqué, hein. Vous n'avez pas beaucoup de gens qui savent le faire. Mais ce que je dirais aux jeunes, voilà, c'est de ne pas étouffer leurs idées, peut-être encore un peu utopiques quelquefois, et pas toujours directement réalisables, mais de surtout pas les étouffer sous un réalisme trop terre à terre.
Merci Pierre Drossard. Un dernier mot pour cet hommage de Roger Maurice Bonnet à adresser.
Oui, il a été donc non seulement à l'Agence spatiale européenne, mais aussi au COSPAR, un organisme international hein, qui faisait le pont entre l'Est et l'Ouest depuis les débuts des années 60, un grand acteur dans ce domaine-là. Il a été très très choqué hein, par le refroidissement, on va dire, des relations internationales, hein, avec surtout cette dernières années avec la Russie qui devenait progressivement de plus en plus infréquentable avec les guerres. Et ça l'avait beaucoup affecté, je sais, pour en avoir parlé directement avec lui à un meeting du CNES, le prospectif. Il a également été à l'Institut international des sciences spatiales ici à Berne. Il a été un directeur exécutif, et c'est un organisme qui fait énormément de conférences sur des sujets nouveaux. Et donc, de ce point de vue-là, il a encore aujourd'hui un impact qui se poursuit. Et il est également à mon institut, l'Institut d'astrophysique de Paris, hein, comme chercheur émérite, et on le voyait de temps en temps venir dans les conférences. Et de ce point de vue-là, ce que je retiens, c'est son humanité et sa grande proximité envers les chercheurs de toute génération.
Merci beaucoup Pierre Drossard d'avoir participé à cette émission hommage à Roger Maurice Bonnet.
Merci à vous.
On marque une pause musicale. Vous êtes bien sur IDFM Radio à l'écoute d'À toi les étoiles pour cette émission spéciale hommage à Roger Maurice Bonnet. Vous l'entendez partout en ce moment, mais la version que je vous propose risque de vous surprendre. Je vous laisse deviner. Et on se retrouve juste après.
We were fire, impossible to tame. Want you when you're gone. I only want you when you're gone.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
De retour sur IDFM Radio, vous êtes bien dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h, 14h. On vient d'écouter Gone, Gone, Gone de David Guetta, Teddy Swims et Ton on High dans une version acoustique. Aujourd'hui, émission spéciale, hommage à Roger Maurice Bonnet. Et pour poursuivre cet hommage, je vous propose maintenant une interview de Régis Courtin, planétologue retraité de l'Observatoire de Paris, qui a bien connu Roger Maurice Bonnet et revient sur l'homme, sa vision et son héritage. Régis Courtin, bonjour.
Bonjour Franck.
Merci d'être présent avec nous pour cette émission hommage à Roger Maurice Bonnet, que vous avez bien connu, Régis Courtin.
Oui, alors je l'ai connu en 1975, nous étions deux jeunes étudiants en DEA, ça s'appelait le DEA à l'époque, diplôme d'études approfondies, à l'Observatoire de Meudon, sous la direction d'Evry Schatzmann, et on nous avait proposé des stages, donc il fallait un stage de 3 mois, et un des stages c'était aller faire des observations millimétriques aux États-Unis sur l'antenne de 12 mètres du NRAO, et le stage se déroulait au LPSP, dont le directeur était Roger Maurice Bonnet, à l'époque, en fait c'était les débuts de ce laboratoire qui avait fait scission du service d'aéronomie après 1968. Roger Bonnet nous a accueillis très chaleureusement et c'était pas lui qui dirigeait notre stage, mais c'était des chercheurs il y avait Paul Bruston, Alfred Vidal-Majar et Noël Coron. Et nous sommes donc partis, Richard Gispert et moi. Richard est malheureusement décédé il y a une quinzaine d'années. Et nous avons participé donc à cette campagne d'observation millimétrique. Et ensuite, nous avons enchaîné avec une thèse de troisième cycle pour l'analyse des données jusqu'en 76. Et nous avons tous les deux entamé une thèse de doctorat. Et Roger Maurice était dans mon jury de thèse en 82. Voilà. Donc entre 75 et 82, on a eu pas mal de contacts scientifiques et autres. Alors il nous a encouragés surtout à participer à la gestion de la recherche. Alors nous, on était complètement naïfs, on se disait mais non, on ne peut pas intégrer des groupes de travail ou des groupes de l'ESA, du CNES, etc. Si, vous devez y aller. On a besoin de jeunes comme vous.
Et l'année suivante, il est devenu directeur de l'Agence spatiale européenne, notamment du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne. Vous avez continué à avoir des échanges avec lui durant ces 18
ans. Oui, justement, parce que fin 82, on a proposé avec Daniel Gauthier le projet Cassini-Huygens, qui allait s'intégrer naturellement dans le programme Horizon 2000 qui venait d'être concocté par Bonnet. Et donc, il a suivi ce projet, il l'a encouragé. Je pense que grâce à lui, le projet a été sélectionné en 88. Pas entièrement grâce à lui, mais disons qu'il était assez favorable à ce que ce projet se fasse en Europe, la sonde Huygens en tout cas. Il a dû suivre le lancement et les premières années de la mission Cassini-Huygens jusqu'en 2001. Et ensuite, il est passé à l'Institut pour les sciences spatiales de Berne en 2002. Et moi, je l'ai croisé à nouveau en 2005 parce que j'avais été invité à faire une communication à l'époque à Berne. Et puis ensuite, on se retrouvait régulièrement dans les colloques scientifiques de l'ESA, du CNES, etc. C'était toujours un plaisir de le revoir.
Régis Courtin, on dit de Roger Maurice Bonnet que c'était l'un des pères de la recherche spatiale européenne.
Oui, en tout cas de son développement à grande échelle et à long terme, parce qu'il avait une vision sur 20 ans. Alors que avant lui, c'était plutôt des projets au coup par coup, avec souvent un peu de lobbying de la part des scientifiques, des équipes, des labos, etc. Alors que là, le programme était structuré sur une vingtaine d'années avec un budget fixe. Donc, on savait où on allait, quoi. C'est ça qui était formidable. On n'a pas dit que sa spécialité, en fait, c'était la physique solaire. Quand je l'ai connu, il était complètement impliqué par le projet OZO-8, je crois, qui observait le Soleil. Et ensuite, il a participé au projet SOHO. Et il y avait une forte thématique solaire au LPSP à l'époque. La science, la planétologie, en fait, c'est un peu grâce à l'arrivée l'astronomie infrarouge, c'est un peu grâce à l'arrivée de nos deux jeunes talents, si je peux dire, Richard Gispert et moi, que ça a commencé. Ensuite, il y a eu Jean-Michel Lamarre qui est arrivé. Ils ont construit des instruments submillimétriques de grande qualité. Donc, voilà, c'était la belle époque.
On voit que Roger Maurice Bonnet avait une vie bien remplie. Et Régis Courtin, il continuait à travailler ces derniers mois.
Non, hélas, je pense qu'il était affecté par une maladie du genre Alzheimer. Les dernières années ont été assez difficiles pour lui.
Qu'est-ce que vous retiendrez de Roger Maurice Bonnet ?
Sa personnalité, c'était vraiment quelqu'un de un peu timide, mais en même temps vraiment assuré, sûr de lui, savait affirmer ses opinions. Mais du point de vue personnel, il était un peu plus réservé, quoi. Et puis je le trouvais d'une élégance folle, et toujours en costume cravate, ce qui est rare dans les labos.
Eh bien, merci Régis Courtin d'être intervenu dans cette émission hommage à Roger Maurice Bonnet. Je rappelle que vous êtes planétologue retraité de l'Observatoire de Paris.
J'apprécie beaucoup que tu aies fait cette émission parce que c'était vraiment quelqu'un qui méritait ce genre d'hommage.
Merci Régis Courtin, vous êtes sur IDFM Radio, à l'écoute d'À toi les étoiles pour cette émission spéciale hommage à Roger Maurice Bonnet. Restez avec nous puisque dans quelques instants, je recevrai l'astrophysicien Pierre Léna qui viendra partager son regard et ses souvenirs. Ce sera juste après Clean Bandit avec Ratibi.
I'd rather be. IDFM 98FM.
De retour sur IDFM Radio, vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, émission spéciale hommage à Roger Maurice Bonnet. Et pour poursuivre cet hommage, j'ai le plaisir de recevoir maintenant l'astrophysicien Pierre Léna, qui va nous parler de l'homme, de son parcours et de ce qu'il a laissé à la recherche spatiale et à celles et ceux qui l'ont côtoyé. Pierre Léna, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez présent aux obsèques de Roger Maurice Bonnet le vendredi 6 février dernier. Quel est votre ressenti ?
Beaucoup d'émotions. C'était un moment familial, puisque c'était le moment de la crémation, sachant qu'il y aura un enterrement dans son pays familial, à côté de Sisteron, à côté de Laragne précisément, dans les Alpes. Et donc, c'était un moment où la communauté scientifique était un peu représentée, mais pas trop. C'était à Clermont-Ferrand, c'était en semaine, donc c'était pas facile pour tout le monde. Et la famille était évidemment très présente. Et puis, il y aura à Paris une journée ou une demi-journée d'hommage, dont la date n'est pas fixée encore, mais qui rassemblera toutes les grandes institutions pour lesquelles Roger Bonnet a travaillé.
Pierre Léna, qu'est-ce qui faisait chez lui l'autorité naturelle ? La compétence, la conviction, la manière d'embarquer les autres ?
Écoutez, c'était fondamentalement un passionné par la science, par l'astronomie, particulier le Soleil, avec lequel il avait débuté sa carrière, et puis par l'espace, qui a été l'axe ensuite de 30, plus 30 ans d'activité professionnelle. Et dans ces différentes fonctions, il a toujours mis sa personnalité, c'est-à-dire chaleureuse, rigoureuse, soucieuse de travail coopératif, et passionnée pour l'objectif, avec un optimisme qui n'excluait pas la rigueur du travail, qui est sa marque finalement. Et voilà, c'est une personnalité très riche, avec bien entendu une facette professionnelle, mais aussi un goût extraordinaire pour la musique. Roger chantait parfois en privé et même parfois en public des airs d'opéra. Un homme qui se souciait aussi de l'impact de la science sur la société. Voilà, c'est une riche personnalité aux facettes multiples.
Pierre Léna, s'il fallait dire ce qu'il a laissé au-delà des missions, qu'est-ce que ce serait?
Ben, ce qu'il a laissé, c'est une vision de l'Europe spatiale face aux grandes puissances, à l'époque les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union soviétique, la Russie étant un peu sortie du jeu, les États-Unis et la Chine qui montent et qui l'a passionné, avec lesquels il a eu de très nombreux rapports. Et donc, cette vision de la place de l'Europe, ça a conditionné son action, ça a été le moteur de son action. Et je pense qu'il a tiré de cette vision un livre magnifique, hein, ce qui s'appelle 100 000 ans, c'est en anglais, hein, il n'a pas été traduit en français, mais 100 000 ans, en anglais, Can we make it? Pouvons-nous survivre, nous, c'est l'humanité, pour 100 millénaires? Et qu'est-ce que ça suppose pour notre petite Terre et ses habitants comme attitude à la fois de découverte et de vivre ensemble? Donc, il ne s'est pas contenté d'être un organisateur l'utilisation de l'espace pour la science, mais sa vision portait au-delà et sans doute était très motrice de son action.
Pierre Léna, vous avez côtoyé beaucoup Roger Maurice Bonnet. Quel a été, selon vous, son apport le plus durable sur la mission, vision, une manière de faire, de travailler avec les équipes?
Ce qu'il faut voir, c'est que bon, nous avons exactement le même âge, hein, à quelques semaines près. Nous avons fait nos études à la même époque, la fin des années 50. J'ai commencé ma thèse au même moment que Roger commençait la sienne, en 1962. Il a fait une thèse avec passion, mais il y a eu plusieurs événements déclencheurs dans sa vie. À la suite des événements de mai 68, la révolution de mai 68, il y a eu au sein du laboratoire dans lequel il travaillait une scission, il s'est trouvé à la tête d'un nouveau laboratoire qui, 15 ans après, est devenu un des tout premiers laboratoires européens de recherche spatiale en astrophysique, en particulier solaire, et qui aujourd'hui est un institut qui s'appelle l'Institut d'astrophysique spatiale, IAS, qui est situé sur le campus de Paris-Saclay, et que Roger a créé. Bon, il se trouve que j'ai été associé à beaucoup de ces étapes. Quand il a montré, ça a duré une quinzaine d'années, donc jusqu'à 1983, ce laboratoire a mis en évidence, par l'ampleur des missions, des collaborations avec la NASA, des grandes réussites de l'observation de la comète de Halley en 1900, la préparation des instruments qui, en 1986, donc 3 ans plus tard, allaient frôler la comète de Halley. Il était l'homme de la situation pour prendre la direction du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne, qui était une toute jeune agence. En fait, le démarrage de l'espace européen a été assez désastreux dans les années 70, parce que les pays n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur une agence unique, et on était parti sur deux structures, l'une faisant des lanceurs et l'autre faisant des missions, des satellites. Et ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc, l'échec de cette première politique a conduit à la création d'une agence unique où le Français Hubert Curien, qui est plus tard devenu ministre de la Recherche en France, a joué un rôle majeur. Il a été, je crois, le premier président de l'Agence spatiale européenne à la fin des années 70. Et il fallait à la tête du programme scientifique, il y avait un Allemand qui était assez visionnaire, hein, mais qui n'avait pas le passé de chercheur et l'expertise de chercheur qui était nécessaire à ce poste. D'ailleurs, depuis, après Roger Bonnet, a toujours été occupé par des personnalités d'un calibre comparable, disons. Donc, cette réussite du laboratoire IAS conduisait à faire appel à Roger Bonnet, et il a pris ses fonctions. Ça a duré 18 ans, jusqu'en 2001. Et là, il a compris que pour faire poids vis-à-vis de la NASA ou de l'Union soviétique, qui deviendrait la Russie plus tard, il fallait un travail coopératif majeur d'équipes qui se pensaient plus volontiers concurrentes les unes avec les autres, en Allemagne, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, que coopératives. Et ce qu'il a réussi, et c'était vraiment très difficile au départ, mais il avait les talents pour ça, ça a été de dire à l'ensemble de cette communauté astronomique européenne, faites-nous des propositions, nous allons en examiner avec vous la faisabilité technique, le coût, les impacts industriels, et puis naturellement les objectifs scientifiques, et nous allons dessiner un paysage qu'il a appelé Horizon 2000. Alors c'est amusant parce que peu après, il a publié un livre grand public qui s'appelle Les Horizons chimériques. Donc il était habité par cette idée d'horizon. Et en fait, musicien, il avait pris le terme Horizon chimérique à une série de pièces de Gabriel Fauré, de pièces pour piano. Donc voilà, Horizon 2000 est devenu l'horizon de la communauté astronomique européenne regardant vers l'espace pour de grandes découvertes. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Il a su le mettre en place, si bien que ses successeurs, après 2001, il y a eu un Horizon 2000+, et puis aujourd'hui, l'idée est toujours là, celle d'un travail coopératif pour définir, à l'intérieur d'une enveloppe financière qui est toujours trop petite, bien sûr, quel est l'optimum scientifique technologiquement possible et industriellement réalisable avec un budget donné qui peut satisfaire les ambitions scientifiques. Alors Horizon 2000 a eu beaucoup de missions, des grosses, des moyennes, des petites, hein, je ne vais pas les détailler tous, j'en retiendrai deux. L'une solaire, puisque évidemment Roger était d'origine solaire et puis c'était une mission relativement plus simple que d'autres au départ, qui s'appelle Solar Heliospheric Observatory, SOHO en abrégé, qui tourne toujours au-dessus de nos têtes et qui a apporté une moisson d'informations absolument extraordinaire sur le Soleil, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la météorologie de l'espace, c'est-à-dire l'impact des événements solaires sur les télécommunications terrestres, les satellites en orbite, etc. Et puis une deuxième mission, alors très différente, techniquement beaucoup plus difficile, qui s'appelle Planck, qui était une mission de cosmologie, très difficile parce que embarquant des fluides cryogéniques à très très basse température, qu'il fallait donc maintenir dans l'espace, se déroulant à grande distance de la Terre, au point de Lagrange, L2. Donc l'apport à la cosmologie de la mission Planck a été proprement phénoménal. Par ces deux grandes missions, et puis d'autres, je le répète, Roger a vraiment installé la communauté européenne au premier rang mondial. Et ce qui se passe aujourd'hui à la NASA, évidemment, et fait que c'est plutôt le recul que l'avenir, hein. Voilà, si je peux résumer, c'est ce que je dirais.
Une phrase pour conclure, Pierre Léna. Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de Roger Maurice Bonnet dans 20 ans?
Vous voyez, c'est une question difficile. Bon, j'ai indiqué ce qu'il me semble que l'histoire de l'Europe retiendra de lui. Moi, je retiendrai l'image d'un ami, de son sourire, de son enthousiasme, de l'amour extraordinaire qu'il portait à ses deux petites filles. Je pense que c'est une grande figure européenne. Il nous a montré, à une époque où on dit beaucoup de choses négatives sur l'Europe, ce que nous pouvons faire quand nous sommes unis et que nous plongeons dans nos racines historiques, qui sont d'une richesse extraordinaire, la force de regarder l'avenir. Et ça, aujourd'hui, c'est un message qui, j'espère, sera entendu et surtout continuera à être réalisé.
Merci beaucoup, Pierre Léna. Je rappelle que vous êtes astrophysicien. Merci, d'être intervenu dans cette émission pour, cet hommage à Roger Maurice Bonnet.
Merci de votre invitation.
Vous êtes sur IDFM Radio, à l'écoute d'À toi les étoiles, une émission spéciale hommage à Roger Maurice Bonnet. Aujourd'hui, on marque une dernière pause musicale avec Charlotte Cardin, Tant pis pour elle. Et juste après, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle. Retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est IDFM Radio que vous écoutez. Vous êtes dans À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie, chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, émission spéciale hommage à Roger Maurice Bonnet. Et après les témoignages de Pierre Drossard, Régis Courtin et Pierre Léna, je vous propose d'entendre de nouveau Roger Maurice Bonnet. En décembre 2014, À toi les étoiles célébrait son 10e anniversaire. À cette occasion, j'avais proposé à celles et ceux qui le souhaitaient de laisser un message sur un répondeur. Je vous propose, en guise de conclusion, d'écouter le message que Roger Maurice Bonnet avait laissé ce jour-là.
C'est particulièrement émouvant de fêter les 10 ans de À toi les étoiles. Presque simultanément d'ailleurs avec le survol par Rosetta de la comète Churyumov-Gerasimenko 67P et de l'atterrissage de son petit robot sur son noyau. Les auditeurs de À toi les étoiles, que je félicite d'être fidèles à cette manifestation astronomique destinée au grand public, ont participé pleinement à cet événement grâce à l'excellente programmation de l'émission. Et qu'il me soit permis de féliciter à cette occasion mon ami Franck Menant, créateur et animateur de cette émission, pour son dévouement et son implication permanente, essentielle de chaque instant à son grand succès. Aujourd'hui, À toi les étoiles fait partie de notre univers aux côtés des autres médias, hélas pas assez nombreux, qui mettent l'astronomie à la portée de tous. Bravo à vous, cher Franck. Bravo à tous ceux qui vous ont aidé à créer ce moyen unique de diffusion de la science, du savoir, et maintenu présent la curiosité et le rêve tout au long des émissions. Je souhaite pour votre émission 10 prochaines années de succès à la mesure de ceux qui ont fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mille fois bravo, continuation, on vous aidera à l'alimenter et à la maintenir en pleine forme. Roger Maurice Bonnet, ancien directeur de l'Agence spatiale européenne de 1983 à 2001.
Ainsi se termine cette émission hommage à Roger Maurice Bonnet. Merci à Pierre Drossard, Régis Courtin et Pierre Léna pour leur témoignage. Une pensée également pour Philippe Morel, qui aurait aimé intervenir dans cette émission, mais qui n'a pas pu être disponible en raison d'un déplacement à l'étranger. Au nom d'IDFM Radio, de la marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, et du parrain, Jean-François Pellerin, j'adresse nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à toutes celles et ceux qui l'ont connu et apprécié. Si vous souhaitez écouter l'émission dans laquelle il avait participé en 1998, quand j'étais sur Radio Droit de Cité, rendez-vous sur mon site personnel. Vous tapez dans votre moteur de recherche le grenier sonore et vous allez tomber sur mon site où il y a toutes les archives des émissions À toi les étoiles, mais bien d'autres aussi, et notamment cette émission qui avait été faite en 1998 avec Roger Maurice Bonnet. On se retrouve, sauf changement de dernière minute, le dimanche 15 mars de 13h à 14h pour une émission consacrée à Artemis 2 avec notre parrain Jean-François Pellerin. Merci pour votre fidélité, passez un bon dimanche et n'oubliez pas, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. A très bientôt sous les étoiles. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck, le troisième dimanche, de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.